Radio Kapi.
Oh, Kapi. Grâce à Mzati à la présentation.
La rentrée scolaire est bel et bien confirmée pour demain lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue de la RDC, rassure le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Epesti. Une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité séjourne à Goma depuis hier pour s'enquérir de la situation après la répression violente des manifestants par l'armée le mercredi dernier. Notre invitée, c'est Julie Nkuna, coordonnatrice de l'ONG Femmes Congolaises pour le Développement, féconde en sigle à Beni, au Nord Kivu. Elle parle de l'écartement de nombreuses femmes des listes des candidats pour les législatives nationales dans cette région. Mesdames et messieurs, bonjour. Je le disais tantôt, le ministre de l'EPST confirme la rentrée scolaire 2023-2024 pour ce lundi 4 septembre sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant des revendications des enseignants, Tony Mwaba répond qu'il ne faut pas tomber dans la distraction de ceux qui parlent à gauche et à droite. D'après lui, gouvernement et banque syndicale avaient harmonisé les vues en bois la loge et tout le monde est d'avis que la rentrée scolaire ait lieu ce lundi 4 septembre. Suivez Tony Mwaba, ministre de l'EPST, dans cet extrait proposé par Pelé Kipela.
J'informe à tous les parents d'élèves ainsi qu'à tous les opérateurs pédagogiques que la rentrée scolaire année 2023-2024 démarre ce 4 septembre 2023 à 7h. Finies donc les vacances, la rentrée est bel et bien confirmée selon les calendriers scolaires. Nous ne sommes pas à un moment où, que ce soit les parents ou les vrais opérateurs pédagogiques, je pense aussi aux enseignants, doivent être distraits. Non. Les enseignants, au travers leur syndicat, nous avons été en Mbouéla, nous avons échangé, nous avons fait des évaluations, et tout a été déjà fait et avec tous les bancs syndicales, nous sommes en accord pour le démarrage de l'année scolaire, c'est lundi 4 septembre. Pas tout ce que vous suivez à gauche et à droite, ça n'a rien à voir avec les professionnels de la CRE. Les professionnels de la CRE étaient bel et bien représentés aux négociations entre banque gouvernement et banque syndicale et nous démarrons ce 4 septembre.
Et puis, la question de la gratuité de l'enseignement n'est pas bien comprise par de nombreux parents d'élèves et même certains responsables des établissements scolaires. Tony Mwaba, le ministre de l'EPST, apporte cette précision à ce sujet. Suivez.
La gratuité de l'enseignement primaire public, qui est la plus grande réforme du quinquennat du président Félix Tshisekedi, a été déjà rendue effective par le président. C'était une promesse de campagne, un programme d'investiture, mais qui a pris corps en 2019 parce qu'elle a été rendue effective. Mais nous avons la mission de travailler pour consolider et pérenniser cette gratuité sur terrain. Mais c'est quand même une précision aussi important que je voulais apporter parce que c'est la rentrée scolaire. Par ignorance, certaines voix s'élèvent pour dire que dans telle école, on a demandé les frais, dans telle autre, on a demandé les acomptes. Il faudrait que les parents les sachent. La gratuité de l'enseignement est située dans les écoles primaires publiques et non les écoles privées. Si vous orientez votre enfant dans une école privée, il n'y a pas la gratuité. Le principe là-bas, c'est le paiement de Minerval, paiement des frais scolaires. Il n'y a pas de gratuité, sauf pour les TENAFER, examen national de fin d'études primaires. Là, il y a la gratuité pour la participation des finalistes des primaires.
Pendant ce temps, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'école primaire, secondaire et technique EPST demande à tous les enseignants de reprendre les chemins de l'école tels qu'est prévu dans les calendriers scolaires 2023-2024. Dans une déclaration faite hier 2 septembre ici à Kinshasa, Godé Matondo, porte-parole de cette structure syndicale, fustige ce qu'il qualifie de manœuvre et des agents de paix qui bloquent les salaires du mois de juillet des enseignants, mettant ici en péril la rentrée scolaire de leurs enfants. Godé Matondo est au micro de Paul Matendo.
L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST rassure le gouvernement de la République de son engagement à contribuer efficacement pour garantir une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée sur l'ensemble du territoire national. En outre, nous fustigeons les manœuvres dilatoires de certains opérateurs de paie qui sont à la base des retards de paiement des enseignants dans plusieurs provinces, mettant ainsi les enseignants en difficulté de faire face aux besoins de scolarité de leurs enfants pendant cette rentrée scolaire. À cet effet, l'intersyndical reste en contact permanent avec le gouvernement de la République. L'intersyndical appelle donc tous les enseignants de bien vouloir vaquer valablement à leur poste de travail dès ce lundi 4 septembre 2023, tel que prévu par le calendrier scolaire 2023-2024.
Du côté du Nord Kivu, la rentrée scolaire 2023-2024 aura bel et bien lieu ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue de la province. Annonce faite vendredi à Goma. C'est à l'issue d'une assemblée générale de l'intersyndicale du Nord Kivu qui a réuni toutes les structures syndicales de l'EPST dans cette province. Toutes ces structures acceptent une rentrée scolaire apaisée. Une décision saluée par la force syndicale nationale FOSINAT qui demande à cet effet non seulement aux enseignants de se préparer pour cette reprise des cours, mais également aux différents responsables de l'EPST Nord Kivu et aux autorités de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui oseraient perturber cet important rendez-vous. Inosa Bahala Chamavu, président provincial de la FOSINAT Nord Kivu, est au micro de Bernardine Diambo.
La FOSINAT Nord Kivu se rallie à cette décision de l'intersyndicale et demande à tous les enseignants de se préparer pour cette rentrée scolaire apaisée. L'éducation n'est pas politique. Nous demandons aux autorités de l'EPST et aux autorités de l'état de siège de mettre hors d'état de nuire tout individu ou groupe d'individus qui oserait de près ou de loin perturber la situation de la rentrée scolaire au Nord Kivu. Nous disons, tous les enseignants, toutes les structures syndicales du Nord Kivu sont d'accord avec une rentrée scolaire apaisée. Ainsi, chers parents, envoyez les enfants à l'école ce lundi 4 novembre 2023. Les cours commencent déjà. Et donc, la gratuité de l'enseignement dans toutes les écoles primaires et de stricte observance.
Et en Ituri, la sous-division des écoles primaires, secondaires et techniques de Djougou 2 en territoire de Djougou est en difficulté. Depuis plus de 3 ans, une quinzaine d'écoles du dit territoire fonctionnent à mi-temps dans la sous-division voisine en raison des conflits qui persistent. Alors que la rentrée scolaire débute ce lundi, le responsable de l'EPST Djougou 2 déplore le fait que les conditions sécuritaires ne soient toujours pas améliorées pour permettre à ses élèves et enseignants d'étudier dans leur milieu d'origine. Le point avec Marine Mamagira.
En territoire de Djougou, les conflits qui perdurent ont changé les modes de fonctionnement de certaines écoles. L'afflux des déplacés, parmi lesquels enseignants et élèves, a poussé les autorités à réorganiser les cours. C'est le cas de la sous-division des écoles primaires, secondaires et techniques de Djougou 2, en territoire de Djougou, où depuis plus de 3 ans, une quinzaine d'écoles fonctionnent à temps partiel dans la sous-division voisine, l'EPST Djougou 1. Certains suivent les cours le matin et d'autres les après-midi. Ces élèves déplacés ne peuvent pas retourner dans leur localité, leurs écoles ayant été détruites ou incendiées par les groupes armés actifs dans le secteur de Walendupitsi. Ces écoles vont une nouvelle fois débuter l'année scolaire 2023-2024 en déplacement, ce qui inquiète le responsable de cette sous-division qui se demande combien de temps cette situation inconfortable va encore durer. Dabou Faustin lance un appel au gouvernement.
Il n'y a même pas de bâtiment, tout a été détruit. Ce que nous avons toujours réclamé, c'est la paix. Alors, ces écoles dont je parle, c'est ça le problème.
Pour rappel, plus de 230 écoles ont été incendiées sur l'ensemble de la province de l'Ituri, selon le rapport d'évaluation de l'année dernière. La plupart se trouvant dans les territoires de Djougou. Bounia, Marine Mamagira, Radio Okapi.
Comme annoncé au sommaire, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, séjourne à Goma depuis la nuit de ce samedi. Il est à la tête d'une délégation ministérielle venue s'enquérir de la situation après la répression violente des manifestants par l'armée le 30 août 2023. Cette commission interministérielle est composée du vice-premier ministre de l'Intérieur, celui de la Défense et ancien combattant, le ministre des Droits humains, celle de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que l'auditeur général des FRDC. Dans un communiqué du ministère de la Communication lue par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, les familles ayant constaté la disparition d'un de leurs membres sont appelées à s'identifier et prendre contact avec la dite délégation. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume dans cet extrait choisi par Sifa Maguru.
Conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, donné au terme de la réunion du Conseil des ministres du 1er septembre 2023, une commission interministérielle est arrivée à Goma ce samedi 2 septembre 2023 en vue de s'enquérir de la situation et faire toute la lumière sur les incidents malheureux survenus dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu en date du 30 août 2020. Pour ce faire, il est demandé aux familles et à constater la disparition d'un des leurs après les 10 incidents de passer dans les différents centres hospitaliers qui ont accueilli les victimes blessées ou décédées afin de les identifier et de prendre contact avec la commission qui siège au gouvernorat de la province du Nord Kivu. Fête à Goma, le 2 septembre 2020.
Rappelons que sur place à Goma, un collectif des organisations des droits de l'homme a organisé un deuil collectif qui est à son deuxième jour ce dimanche pour pleurer les morts et exiger des enterrements dignes de toutes les victimes. Comment établir les statistiques des jeunes adolescents qui s'adonnent au tabagisme en RDC? C'est l'objectif d'un atelier ouvert vendredi à Kinshasa. Ces travaux sont organisés par Development Gateway qui travaille en partenariat avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et le Programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques. Selon Christus Midero, responsable pays de cette ONG en RDC, il s'agit au cours de cet atelier de présenter notamment les résultats de l'évaluation rapide qui ils ont mené sur le tabagisme chez les jeunes adolescents en RDC, mais également de présenter le protocole de recherche sur le tabagisme dans cette tranche d'âge, le but étant de réduire la consommation du tabac sur toute l'étendue du pays. Christus Midero est au micro de Merveille Assani.
Alors, pour cet atelier ici, l'objectif était de présenter les résultats de l'évaluation rapide que nous avions menée pour identifier les gaps dans les domaines là des tabagismes chez les jeunes adolescents en RDC. Et après, il y aura une grande recherche que nous allons mener partout qui va prendre en compte toute la RDC dans le but de collecter les données sur la prévalence de l'usage du tabac en RDC. Et là, l'atelier ici, ça a consisté de discuter avec les parties prenantes qui interviennent dans le contrôle du tabac en RDC pour arriver à discuter le protocole qui a été mis en place et valider les protocoles et qui va être utilisé pour collecter les données. C'est vrai qu'il y a un bureau d'études qui a été sélectionné et qui va aider dans la collecte de données sur les tabagismes chez les jeunes adolescents en RDC. Nous allons travailler et évidemment ça sera une enquête ménage, mais il y a les jeunes dont l'âge varie entre 10 et 17 ans qui vont être interviewés. Les attentes, c'est juste arriver à très bien comprendre la méthodologie, spécialement toutes les parties prenantes, le bureau d'études, et comprendre la méthodologie et vers la fin implémenter la recherche comme c'est planifié.
Cette autre nouvelle sur la fréquence de la paix. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé hier samedi la première production des carreaux et faïences de la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa, fabriquée en République démocratique du Congo. Selon Ogi Bolanda, directeur de l'Agence des zones économiques spéciales, cette production est l'œuvre de l'entreprise Saphir Céramique. Il ajoute que d'autres entreprises sont déjà opérationnelles dans cette zone. Paul Matindo.
Parlant des saphirs céramiques, Ogu Bolanda a expliqué que cette entreprise a investi un montant évalué à 115 900 000 dollars américains et a ainsi créé 6 000 emplois. Autre société déjà opérationnelle dans la ZES Maluku s'appelle Varun Beverage Dirsi. Celle-ci est spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses de la marque Pepsi. Son investissement s'élève à 129 millions de dollars américains. À côté de ces deux entreprises, Ogu Bolanda a également parlé des Sopaco, société de production alimentaire du Congo, et de Ebenezer International. La première s'occupe de la production des huiles végétales, margarine et autres. Pour ce faire, elle a investi au moins 49 millions de dollars américains. La deuxième, elle, c'est la fabrication des emballages en papier et autres. Au sujet des contraintes auxquelles fait face la zone économique spéciale pilote de Maluku, les directeurs de l'AZES parlent par exemple des difficultés financières. Ogu Bolanda explique qu'à ce jour, un gap de 80 millions de dollars américains est à combler pour finaliser les différents travaux d'aménagement.
Actualité internationale.
Au Gabon, le président de la transition était hier samedi avec les hommes des médias dans le cadre de la poursuite de sa série de prises de contact. Pour cette première rencontre avec la presse, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema s'est dit prêt à faciliter le travail des journalistes, parfois difficile sous le gouvernement déchu.
L'invité.
L'ONG Féconde, femmes congolaises pour le développement, déplore l'écartement à la dernière minute des nombreuses femmes des listes des candidats pour les législatives nationales à Béni. C'est l'une des principales raisons de la faible représentation des femmes sur la liste des candidats retenus, affirme Julie Nkuna, coordonnatrice de l'ONG Féconde à Béni. Toutefois, elle réaffirme l'engagement de la femme pour élire leurs semblables aux prochaines élections. Julie Nkuna, coordonnatrice de l'ONG Féconde à Béni, est notre invitée dans cette édition. Elle s'entretient ici avec Sadiki Aboubakar.
Madame Julie Kouna, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous dénoncez le fait que la femme n'a pas été suffisamment alignée par des partis et regroupements politiques pour la candidature aux législatives nationales en ville et territoire de Béni. Comment est-ce que vous expliquez cela?
Nous parlons du faible alignement des femmes par des partis politiques. Malgré toutes les luttes que nous avons faites pour accompagner les femmes à la législature nationale jusque-là, nous avons constaté que nos partenaires, les hommes, n'avaient pas les soucis d'accompagner ces femmes-là qui ont travaillé plusieurs années dans des partis politiques. Et cela parce qu'il y avait des regroupements qui s'étaient créés d'une manière spontanée pour l'intérêt de conserver les places en faveur des hommes. Il y a aussi des femmes qui ont été écartées des partis politiques à la dernière minute, prétextant que les femmes ne votent pas femmes.
Allons-y doucement. Sur la liste qui a été affichée pour les législatives nationales, on trouve combien de femmes pour la ville et le territoire de Béni?
Pour la ville et le territoire de Béni, nous trouvons plus ou moins 16 femmes pour la ville et les territoires, pendant que les hommes vont jusqu'à 90 quelques
politiques. Ça ne représente même pas un quart.
Voilà. C'est ce qui nous inquiète un peu. Quelque part, il n'y a pas d'équité dans des partis politiques. C'est pas la démocratie dans les partis politiques. Ils se sont basés sur quoi? Pour écarter des femmes, pour n'aligner que des hommes. Nos recherches démontrent qu'il y a des femmes, comme je l'ai dit au départ, qui ont été débarquées des partis politiques à la dernière minute. D'autre part, il y a des partis politiques des femmes qui n'ont pas été totalement installés ici chez nous à l'Est, donc des partis politiques qui ont eu naissance à Kinshasa, mais qui n'ont pas été installés ni vulgarisés ici et n'ont pas eu la chance d'avoir les seuils de recevabilité et qui ont été écartés par la CENI. Voilà. Nous pouvons dire que même cette loi sur les regroupements, cette loi revue pour faciliter la femme, elle n'a pas vraiment eu son sens parce que des partis pareils, c'était des partis à encourager. Au moment où nous sommes, la femme doit être encouragée, accompagnée. Alors, quand ces partis se sont retrouvés sous la rigueur de la loi, ce sont des partis qui ont été écartés et leurs candidates ont été découragées. Il y a d'autres qui ont viré dans d'autres partis, mais pour occuper des postes de subalternes. Alors, cela a joué à la représentativité des femmes au niveau de la ville et du territoire.
Mais est-ce que vous ne voyez pas la responsabilité de la femme elle-même dans ça? Parce que déjà, quand vous parlez de certains partis politiques des femmes qui n'ont pas été vulgarisés en amont, qui ne sont pas vraiment connus et n'ont pas été en mesure d'atteindre le seuil, est-ce que ce n'est pas parce que la femme n'a pas vraiment commencé le travail au moment qu'il le fallait?
La responsabilité est partagée. Il y avait un problème de financement pour les femmes. Et vous allez trouver que ces partis des femmes, les partis au féminin, comme nous l'avons appelé, ce sont des partis qui ont commencé. Et ce ne sont pas des partis qui ont été dans l'exécution du pouvoir. Et ils n'ont pas eu le temps d'amasser de l'argent. Et les partis qui ont eu plus de gens, ce sont des partis des gens qui ont été une fois députés ou ministres.
Alors, ils ont fait...
qui sont au pouvoir, qui ont eu déjà le temps de se regrouper en bulldozer et ça a écrasé la minorité qui était féminine. Voilà.
Et donc vous pensez que la femme est une fois encore défavorisée?
En tout cas, avec l'allure où on voit les choses, bien qu'on est armé maintenant parce que nous n'allons pas abandonner la lutte, nous allons élire les femmes, mais nous voyons que les hommes vraiment, une autre fois, ils ont fait travailler leur ménage pour chercher à nous contrecarrer. Alors la femme vraiment, elle n'a pas été totalement favorisée.
Et quand vous parlez des partis politiques qui ont remplacé les noms des femmes sur des listes présentées à la CENI. Est-ce que vous avez des preuves de ces femmes-là et aussi de ces partis politiques?
Oui, oui, seulement parce qu'on ne peut pas citer leurs noms au micro, mais nous avions eu des femmes qui sont venues se plaindre auprès de nous, disant que voilà, on vient de m'écarter du gâteau, prétextant que les femmes ne peuvent pas voter les femmes, alors une femme au sein d'un regroupement serait un fruit pour échouer.
Donc les partis n'ont pas fait confiance à la femme pour gagner les élections.
Oui, 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 c'est ce qu'ils disaient.
Ça ferait perdre aux partis.
Oui, oui. Alors, il y a des partis dont les initiateurs ont besoin de prendre le Sénat ou bien être président de la Chambre basse du Parlement. Alors, ils ont préféré mettre des hommes, disant que ce sont eux qui peuvent influencer l'électorat. Et ils ont écarté les femmes. Et ce sont des femmes que nous encadrions. Et d'autres se sont découragés carrément. Ils ont abandonné la lutte, vous voyez.
Julie Kouna, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invitée, Julie Nkuna, coordonnatrice de l'ONG Fekonda Beni, répondait aux questions de Sadiki Aboubakar. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima sous la supervision éditoriale de Pelekipe Lamondo. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa et grâce à Mzati Massanzete à la présentation. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.